Merci beaucoup. Bonjour à tous. Ça me fait grandement plaisir de prendre la parole. Et je vais être en continuité, évidemment, avec ce que vous avez présenté ce matin, parce que les jeunes garçons qui sont l'objet ce matin de ma présentation, je dirais, souffrent d'un enracinement très, très profond dans des valeurs virilistes, patriarcales, puis des valeurs finalement qui appartiennent, et puis j'avais pas envie de le faire, mais qui appartiennent à cet ordre patriarcal. Olivia en a présenté mercredi matin, je pense, les grands éléments, les grandes lignes. Puis, j'ai eu envie, parce qu'elle nous a dit qu'elle a été exclue du monde de la philosophie, qui est un monde masculin. Et c'est vrai, traditionnellement, dans l'ordre patriarcal, la raison est du côté des hommes, la lumière est du côté des hommes, l'ordre est du côté des hommes. Leur violence est vitalisante, donc la violence masculine, elle est évidemment valorisée, alors que celle des femmes seraient dévalorisées. Donc, tous ces couples binaires, évidemment, sont interchangeables, mais il y a quelque chose là-dedans qui est très fort et qui reste. Et les jeunes hommes dont je vais vous parler ce matin, ben, je pense que leur inscription virile s'inscrit là-dedans, dans quelque chose qui a quand même plusieurs milliers d'années, vous en avez parlé. Et puis, on pourrait aller encore plus loin, parce que l'ordre, ça c'est l'ordre patriarcal en gros, mais l'ordre qui définit encore aujourd'hui le féminin et le masculin, j'ai l'impression qu'il s'inscrit encore dans des couples binaires qui sont, je dirais, très imperméables. Et ce qui est le plus important pour le virilisme, c'est de conserver ces interdits, hein, de passage entre l'un et l'autre. Les femmes doivent vraiment rester à leur place dans ce monde ordonné, alors que les hommes doivent être à leur place. Et tout mélange, toute hybridation leur apparaît comme quelque chose de dangereux. Ils deviennent contaminés. S'ils sont contaminés, ben, là, ça prend des rituels de contamination, ils sont possédés, ça prend des exorcismes, ça devient quelque chose de très, très compliqué. Mais vous voyez, je vais un peu fonctionner avec ces schémas, Olivia, que vous avez présentés il y a quelques jours, et auxquels je vais ajouter peut-être quelques idées. Mon idée de base, lorsque j'ai commencé à travailler sur ce que j'appelais l'hypervirilité des jeunes garçons, c'est que depuis les années 95, les Spice Girls à peu près, donc depuis les Spice Girls apparaissent en 94, hein, pour ceux qui se souviennent, donc depuis les années à peu près 95 au Québec, il y a une hypersexualisation des jeunes filles dans leur attitude, dans leur comportement, qui fait problème dans le monde scolaire. Et cette problématique n'est pas terminée. Alors, tous les années, vous allez les entendre au printemps prochain, encore les jeunes filles se plaignent qu'on ne leur permet pas de ne pas porter la brassière, de ne pas porter un chemisier qui est très sexy, etc., etc. Vous avez en France le même débat, je l'ai vu passer aussi dans Libé très, très souvent. Donc, les jeunes femmes revendiquent un code vestimentaire qui est beaucoup plus sexy que ce qu'on leur permet, blâmant les hommes, comme on le fait dans le monde musulman, que c'est parce que les hommes ont cette permission-là, et s'ils doivent se couvrir, se vêtir de vêtements non sexy, c'est pour se cacher au regard des hommes. Parce que, enfin, vous voyez, toute cette problématique. Bon, il y avait cette problématique-là, mais j'ai vu apparaître en même temps, parce qu'à l'époque, j'étais enseignant, ici à Montréal, dans le monde secondaire, j'ai vu apparaître en même temps que cette hypersexualisation, l'hypervirilisation. Mais il faut mettre évidemment cette hypervirilisation en contexte, parce que en 90 devient un phénomène très très important et populaire, c'est l'hooliganisme en Angleterre. En plus, se développe un rock metal, puis même un hyper punk, hyper macho. Il y a le rap afro-américain qui est aussi hyper macho, qui devient très très populaire auprès de cette jeunesse. Il y a les clubs de motards comme les Hells Angels, ils veulent tous faire partie des clubs de motards parce que pour eux c'est très très macho. Les skins, évidemment, est un mouvement important, c'est un mouvement qui commence dans les années 60 et 10, mais pour toutes sortes de raisons, il va être récupéré, ce mouvement-là, au Québec, uniquement dans les années 90. Il redevient fort. Il est apparu, il est disparu, comme le mouvement punk. Il revient fort avec le mouvement gothique. Puis, il y a toutes sortes de choses qui se passent. Le développement des gangs de rue, hein, qui sont des bandes de rue, qui sont aussi des lieux du virilisme. En plus, il va y avoir toute une culture autour des voitures sportives qui va être finalement matérialisée dans les films culte chez les ados qui s'appelle Fast and Furious. Donc, c'est les films de Vin Diesel qui aujourd'hui représentent un modèle de virilité. C'est peut-être ce qui était le Rambo des années 80-90. Enfin, il y a plusieurs groupes identitaires extrémistes qui sont apparus au Québec aussi à partir des années 90 et qui sont devenus très importants comme la Meute. On leur donne une place aujourd'hui dans l'actualité. Je ne sais pas pourquoi ils sont très peu nombreux, mais ils attirent ces jeunes-là. Okay? C'est des grands modèles pour ces jeunes-là. La seule différence avec la culture française au Québec, c'est que l'islam est moins en cause. Okay? En France, l'islam dans les banlieues est en cause. Et il y a un virilisme qui est très fort, qui est un virilisme religieux. Ici, l'islam n'est jamais en cause parce que la culture, évidemment, il y a 120 ou 140 000 musulmans dans tout le Québec. Et puis, parmi ces 120 000 musulmans, très peu appartiennent à une culture très viriliste ou très intégriste parce que ce sont des immigrants qui ont été accueillis, surtout des femmes, pour travailler dans des milieux intellectuels. Donc, on est dans une autre culture qui n'est pas du tout la même. Mais cette culture viriliste que vous connaissez bien, qui avait été mise en scène par Kubrick, on en a parlé, évidemment, représente bien cette culture-là. Et je dirais une culture, puis je mets ces images parce que c'est une culture qui met en contraste beaucoup des nouvelles formes de virilité. Puis moi, je pense que c'est des nouvelles formes de virilité ici incarnées par Prince, quand même, avec sa superbe guitare qui lui sert d'arme. Et puis évidemment, les anciennes cultures virilistes que sont la culture cowboy, la culture western, et puis la nouvelle culture viriliste qui est la culture djihadiste. D'ailleurs, il y a à peu près une dizaine, c'est pas plus que 15, je pense même qu'on est à 12 jeunes Québécois qui ont été attirés par la culture viriliste d'État islamique et qui sont partis en Syrie. La plupart d'entre eux maintenant sont venus. Le contexte sociétal de cette culture viriliste, avant de vous présenter mes hypothèses là-dessus. Mais il y a une culture sociétale qui a été présentée. J'ai eu l'impression, en faisant cette diapo ce matin, de faire un peu la synthèse de ce que moi j'ai entendu ici depuis 2 jours et demi. Donc c'est bien de parler après tout le monde parce que je peux faire des synthèses. J'ai préparé cette présentation ce matin. Donc la première chose à dire, je pense, c'est que les identités masculines ne cessent de se multiplier. Ça, c'est très clair. Or, il y a tout de même une permanence du conformisme des stéréotypes du genre. C'est là, il y a un pôle, il y a un totem, c'est très, très présent. Les femmes réfléchissent depuis presque 100 ans, et là, je pense au mouvement des suffragettes, puis on pourrait partir de plus loin que ça, sur ce qu'est être femme, mais les hommes peinent à mener cette réflexion. Puis c'est vrai, même dans les grands cours que je donne à l'université sur cette problématique du genre, à des futurs enseignants, elle est toujours mal reçue. On se demande tout le temps pourquoi je parle de cela. Donc, c'est toujours, mais je leur dis, mais c'est parce qu'on a, comme garçon, vous avez besoin de réfléchir aussi là-dessus, puis ils n'en voient pas la nécessité. Mais c'est certain que lorsqu'on est dans une position de supériorité, de domination, on se sent vraiment pas pressé de la remettre en question. Ça, c'est comme une évidence. Les valeurs patriarcales sont remplacées par les valeurs de l'égalitarisme. Ça, c'est très important au Canada depuis nos deux chartes, charte canadienne et charte québécoise. Ça veut dire que c'est vraiment la fin de la domination masculine. On ne peut plus rien fonder politiquement, démocratiquement sur cette domination. C'est plus possible. Marcel Gauchet vient d'écrire un article, un peu en retard, mais bon, il est 25 ans en retard sur le Québec, mais c'est pas grave. Mais nous, on est là-dedans à peu près, je dirais, depuis le début des années 80. Ce n'est plus possible à cause de l'égalitarisme. Et puis, toute forme d'attitude, de comportement qui n'irait pas dans ce sens pourrait être vue comme de la discrimination. Donc ici, c'est très, très important, ce courant-là. Il n'y a pas de complot, je dirais, masculin ou même machisme contre le féminin. Puis, il faut le dire parce que dans les milieux universitaires québécois, il y a encore cette idée que le mâle représente le mal. Le mâle, c'est le mal. Moi, j'ai eu l'impression qu'il y a eu un retournement de l'ancien mythe adamique. L'ancien mythe adamique crée une femme qui va représenter le mâle parce qu'elle aurait été la première à transgresser un interdit divin. Moi, je transforme tout le temps cet interdit en disant c'est la première créature de Dieu, premier être mythique apposé à un acte libre, on peut aussi le voir comme ça. Mais aujourd'hui, il y a un renversement de cette vieille mythologie dans une société post-patriarcale de voir l'homme comme étant le mal. Et ça va aussi loin au Québec, on fait des politiques pour empêcher les hommes de travailler seuls dans des institutions avec des femmes, parce qu'ils sont toujours des potentiels violeurs, agresseurs, etc. Donc, il y a cette mentalité qui s'est développée, qui est très forte ici. Donc, je pense qu'il faut en discuter. Les hommes se définissent de moins en moins par la paternité au Québec. La plupart des hommes, et beaucoup de femmes, mais je pense surtout des hommes, se définissent de plus en plus par leur plaisir sexuel. Donc, c'est pourquoi, si vous allez dans les sites pornographiques, dorénavant, vous avez à peu près 400 catégories. Autrefois, il y en avait à peu près 10, et ça se multiplie. Les hommes se découvrent des plaisirs sexuels et ils font partie de groupes qui vont s'assembler autour de ces plaisirs sexuels. Ils auront leur site web, ils auront leur bar, ils auront leur lieu de rencontre, ils auront enfin tous les outils numériques pour pouvoir se rencontrer et se réunir. Par contre, et malgré cela, la question du consentement devient la question, je pense, la plus difficile au Québec. Okay? Puis elle fait beaucoup de problèmes chez les virilistes, cette question-là, du consentement pour accéder à l'autre. Question qui existe très peu dans le monde gay, mais cette question-là est quand même là. Puis, sixièmement, la masculinité et la virilité sont des construits culturels, ça, on le sait, donc nous sommes indifférenciés hein, quant au genre et quant à la virilité à la naissance. Puis, il n'y a pas de connexion entre le biologique là-dessus et le social. Puis moi, je pense qu'aujourd'hui, nous sommes en train d'expérimenter ce que cela veut dire. Puis c'est pourquoi on a vu apparaître au Québec, depuis à peu près une vingtaine d'années, ce qu'on appelle moins la culture queer que la culture trans. Et cette culture trans va très loin, parce que beaucoup de jeunes enseignantes qui sont dans mes classes, moi je donne des cours de dernière année, et je donne un cours qui s'adresse à tous les étudiants. Donc j'ai toujours des grandes classes de 350-400 étudiants. Donc, ce qui est dans l'air depuis une vingtaine d'années, c'est vraiment l'idée qu'on doit avoir un enseignement neutre, où on ne prend plus intérêt au genre. Donc, les enfants devant soi sont des enfants qui ne sont pas genrés. Donc, moi, je pense que ça fait partie de cette problématique-là. Ah, c'est ce que je voulais dire dans la prochaine diapo. Donc, le contexte scolaire de cela, c'est vraiment cette idée. Que depuis la mixité scolaire, mais je pense que c'est de plus en plus vrai depuis une vingtaine d'années, c'est que l'enseignement primaire et secondaire tend à neutraliser les identités de genre. Puis on me dit toujours, même des enseignants dans le monde scolaire aujourd'hui, quand je m'adresse aux élèves, je m'adresse pas à un garçon ou une fille, je m'adresse à un élève neutre, sans genre. Ils refusent toutes les activités genrées. Donc, bon, on peut le faire, mais j'essaie de comprendre pourquoi cette hyper-virilisation et cette hyper-sexualisation qui est apparue même dans l'école primaire, okay, jusqu'à l'école secondaire. Donc, ça apparaît aussi à l'école primaire. J'ai l'impression qu'il y a un désir, là, qui est très, très fort chez des enfants de se sexualiser, au moins de se genrer, au moins d'apparaître sous une identité de genre. Puis aussi, les garçons se sont rendus compte avec des années, avec l'égalitarisme canadien, que les femmes peuvent occuper toutes les fonctions, évoluer autrefois aux hommes. Puis il y a quelque chose qui est, je pense, comme un peu un interdit ou qui est occulté, dont on ne parle jamais. Mais les jeunes garçons ont toujours été associés à des jeux très masculins, dont le camion de pompier. Et quand on demande à un jeune garçon ce qu'il veut faire dans la vie, c'est qu'en général, pour se différencier des filles, il disait qu'il va être policier, pompier ou même militaire ou encore mieux conducteur de camion, ça c'était bien. Et on leur donne encore des camions, mais ça ne fonctionne plus parce qu'il y a autant de chauffeurs d'autobus et de camions aujourd'hui qui sont des femmes que des hommes. Donc ils doivent se trouver d'autres lieux de différenciation. Puis la question de la différenciation va être au cœur de toute cette problématique-là. Donc pour moi, mes hypothèses avec lesquelles je travaille, c'est que le virilisme est susceptible d'éclairer les rapports négatifs à l'école de plusieurs jeunes garçons. Parce que les jeunes garçons qui appartiennent à cette culture viriliste ont vraiment des comportements scolaires. Je vais les montrer tout à l'heure, ces comportements-là. Leur virilité exacerbée aussi s'affirme par des conduites antiscolaires. Et plus un jeune garçon se conforme à un stéréotype, je dirais, viriliste, mais plus il met en scène des comportements qui montrent justement une aversion à l'école considéré pour lui comme féminin. Puis ça, c'est vraiment la grande problématique. Puis c'est pas, l'école n'est pas féminine parce que ce sont des enseignantes qui assument les fonctions d'enseignement. C'est que l'école, au complet, dans la représentation qu'elle peut être comme lieu d'apprentissage, est considérée comme quelque chose de féminin. Donc, un lieu dans lequel ils ne veulent pas être, parce que une des fonctions de la différenciation, c'est de s'exclure du monde féminin ou de la matrice féminine. Dans les rites de passage, on sort le jeune garçon de la matrice féminine. Donc, ils ont l'impression, lorsqu'ils sont à l'école, d'être toujours dans cette matrice, de ne pas pouvoir en sortir. Et c'est pourquoi ils auront différents comportements qui vont leur permettre d'en sortir le plus rapidement possible. D'ailleurs, toutes les données sociologiques cumulées, moi j'ai fait beaucoup de recherches de type sociologique, empirique, sur la violence des jeunes garçons, sur les représentations de l'école des jeunes garçons, etc., etc., etc. J'ai pas mal publié là-dessus. Puis là-dessus, tous mes travaux, pour ceux qui connaissent De Barbio en France, mènent les mêmes travaux depuis au moins 30 ans. Il vient tout juste d'écrire, d'ailleurs, dans la même, je dirais, dans la même inscription que moi, un rapport qui montre comment le virilisme aussi est une des principales causes des incivilités chez les jeunes garçons en France. Un rapport qui vient tout juste de sortir, voilà, à peu près quelques mois. Mais toutes les statistiques montrent que le décrochage scolaire est beaucoup plus grand chez les garçons, que ce sont principalement les garçons qui ont des conduites d'indiscipline, d'incivilité et de violence à l'égard des enseignants, entre autres. Puis les garçons, évidemment, sont les plus grands décrocheurs de l'école. Puis je dois vous dire que ça a un impact qu'on voit même à l'université, parce que ici, on est presque autant d'hommes que de femmes, un petit peu plus de femmes, mais mon université, l'Université Laval, quand même, c'est 45 000 étudiants, mais parmi ces 45 000 étudiants, 67% sont des femmes. Donc, on est tout proche d'atteindre le 70% de femmes. J'imagine que ça doit être à peu près pareil dans les autres universités, je n'ai pas le chiffre. Donc, évidemment, ça a un impact sur les études à long terme. Ces jeunes garçons, généralement, proviennent, enfin, majoritairement, de classes populaires. Okay? Donc, classe ouvrière, classe défavorisée, puis les classes rurales. Moi, j'habite dans un milieu rural, et dans mon milieu, je dirais que c'est 80% des jeunes garçons qui abandonnent l'école à 16 ans. Ils vont travailler à l'usine, parce que l'usine, dans leur représentation, est un lieu très masculin, très machiste, et c'est surtout les hommes qui travaillent à l'usine. Et très rapidement, ils pourront s'acheter leur skidoo, leur 4x4, enfin, tous je dirais, les objets qui, dans leur tête, font viril. Okay. Caractéristiques identitaires de ces jeunes garçons. Puis là, ça rejoint quelque chose que vous avez dit ce matin, c'est que le militarisme puis le patriotisme n'est jamais loin de ces comportements-là, et beaucoup de ces jeunes garçons vont adhérer au mouvement d'extrême gauche ou d'extrême droite, mais les deux se rejoignent dans une espèce de virilisme où il y a l'uniforme, où il y a une affirmation patriotique qui est très très forte. Donc, ce sont des jeunes qui sont toujours à la quête d'un chef. Donc, quand dans la classe, vous avez une position de chef, puis c'est surtout les femmes qui, dans les classes, ici au secondaire, sont capables de mieux assumer cette position de chef. Donc, c'est surtout les femmes qui ont le plus de facilité avec ce type de garçon, plus que les hommes qui ne savent jamais quoi faire avec ce type de garçon. Ça, dans mes enquêtes aussi, je le montre très bien, comment les femmes tiennent mieux la classe parce qu'ils sont capables de s'incarner dans un rôle de chef. Alors que beaucoup d'hommes qui sont dans le monde de l'enseignement sont incapables de s'incarner dans un rôle de chef. Donc, ils adoptent aisément un conformisme de groupe ou de bande. Donc, ce sont les mêmes jeunes, vous savez, qui ont été à certaines époques les skins, les punks, les rockers. Ils ont besoin d'un uniforme. L'uniforme jeune va être transposé plus tard, à l'âge adulte, par un autre uniforme qui sera un uniforme politique ou un uniforme religieux, peut-être du djihadisme. Mais l'idée de l'uniforme qui les uniformise, hein, qui leur donne une identité uniforme, est quelque chose de très important. Comme je vous disais au début, ils ont peur des hybridations. Tout ce qui est hybridé pour eux est contaminant et dangereux. Donc, l'uniforme les protège de toute forme de contamination. D'ailleurs, on a parlé hier dans une conférence de contamination. Ils cherchent des réponses définitives. Donc, la philosophie pour eux, la réflexivité, la pensée critique, tout ce qu'on pourrait appeler la culture de l'intériorité, on a beaucoup de difficultés avec ces jeunes. ils la refusent complètement, ils sont toujours en extériorité. Et encore là, l'uniforme est important, l'uniforme est quelque chose d'extérieur. Donc, entrer en soi, ça serait comme dangereux. Il faut toujours rester à l'extérieur de soi. C'est une culture d'ailleurs qui est très corporelle. Ils refusent évidemment les acquis de la société égalitaire. Les garçons ont toujours peur d'apparaître devant d'autres garçons. Oh, ça, c'est très important comme faible, efféminé, impuissant, homosexuel. Leur sentiment de vérité outrancier, dès lors, se renforce dans des situations où un garçon est en position de domination. D'ailleurs, c'est toujours très important pour eux. Dès qu'ils vont être en position de domination, ils vont en profiter pour affirmer leur virilité. Puis, lorsqu'ils ne peuvent pas être en position de domination, ben, ils vont tout simplement se retirer. Puis, d'ailleurs, pour les jeunes virilistes, les garçons les plus vulnérables se retrouvent du côté du féminin. Culture viriliste, pour moi, peut expliquer tout leur rapport négatif à l'école. Un dédain de l'école, un dédain des activités scolaires, un dédain des règles pour la discipline, etc. C'est vraiment un dédain. Mais j'aimerais aller plus loin que ce dédain. Là, je n'aurai peut-être pas le temps, mais il y a, je dirais, des attitudes et des comportements qui sont spécifiques à ces jeunes, qui sont très connus par tous les enseignants. Okay? Parce que les enseignants doivent gérer ces jeunes-là. Ils sont toujours, ils représentent une frange quand même importante de l'école publique. Vous savez, au Québec, on a un assez grave problème dans l'école parce qu'on a une école publique et une école privée. Et dans l'école publique, il y a une partie de l'école publique qui est quasi privée parce que ce sont des écoles à projet ou des écoles internationales. Donc, il reste très peu d'élèves, d'étudiants dans la vraie école publique qui représente à peu près juste 30% de la population. Et c'est dans ces écoles-là qu'on va rencontrer ces jeunes-là. Ils sont massivement présents. Donc, dans l'école publique, et les enseignantes, surtout aujourd'hui, c'est des enseignants qui enseignent dans ces écoles, parce que les jeunes qui sortent diplômés de nos programmes sont des enseignants, donc ils sont confrontés à cette culture-là. C'est pourquoi, moi, je trouve très important, enfin, de les former à cette culture-là. Je ne reviendrai pas sur ce qu'est la virilité, on en a beaucoup parlé, j'aurais aimé en dire un petit mot, c'est vraiment pas important, mais vu qu'il me reste très peu de temps, j'aimerais plutôt insister sur un point. Le différentialisme. Le différentialisme est important, il est toujours là, il part de l'école, les enseignantes essaient d'avoir des attitudes de neutralité genrée à l'égard des élèves et il y a comme réaction, à mon avis, l'hypersexualisation et l'hypervirilisation. Or, pour moi, c'est un processus, le différentialisme, qui est tellement important. Devenir homme dans, je dirais, le modèle patriarcal, c'est vraiment se sortir de la matrice maternelle et se purger de tout ce qui pourrait être féminin en soi. Okay? On ne doit laisser aucune trace de féminité, de féminin. Et tout ce qui peut être associé à des représentations de la féminité, donc l'efféminé, même si le jeune garçon est hétérosexuel, mais il est un peu efféminé, il ne passe pas, l'homosexuel et l'enfant. Badinter a beaucoup écrit là-dessus, d'ailleurs, dans XY. Donc, tout ça devient pour lui quelque chose de repoussoir. Il ne doit pas être associé à ça. Pour ces jeunes garçons, puis je pense que c'est ce qui est important, ils doivent absolument s'exclure du féminin. Puis, si j'avais un peu de temps, je n'ai pas beaucoup de temps, donc c'est pas grave.
Deux grosses minutes.
Deux grosses minutes. Mais voilà. J'ai essayé de faire une schématisation des cultures de type viriliste dans cette frange de la population scolaire des écoles publiques. C'est pas facile à faire. Je l'ai fait sachant que c'est très fragile épistémologiquement comme catégorisation. Mais j'ai essayé de la diviser justement en trois catégories. La première catégorie, on pourrait rencontrer des jeunes qui ont une virilité, je dirais, je l'ai appelée détendue. Ils sont dans une différenciation parce que pour eux aussi, c'est très important de se différencier. Donc, de se trouver des activités, des attitudes, des manières d'être, de s'habiller. Vous savez, le hipster, la barbe est revenue à la mode, évidemment, que c'est un. On est vraiment dans des signes différentialistes, c'est devenu très important. Puis c'est drôle, en même temps, les hipsters, ils se mettent de la couleur sur les ongles, ils se mettent des lulus en couleur. J'ai vu aussi beaucoup de la couleur sur les ongles d'orteils. Donc, Il porte des signes du féminin, mais en même temps, il porte des signes, je dirais, très clairement masculins, qui sont des signes ancestrales que vous connaissez bien. Mais je dirais que c'est une virilité qui est détendue, qui se permet, je dirais, de s'approprier certains signes du genre féminin sans être mal à l'aise. Mais on va retrouver dans le monde scolaire cette culture d'opposition. Donc, c'est vraiment des jeunes qui vont s'opposer à tout ce qui est féminin. Et là, je vous donne des exemples que vous connaissez probablement, mais on les trouve très fortement dans le monde scolaire. Donc, si les filles sont pleurnichardes dans leur représentation, ils ne doivent pas l'être, sont dociles, ils rebellent. Si ils ont une langue raffinée, puis c'est ce que les jeunes garçons pensent des filles, ah, les jeunes filles ont une langue raffinée, c'est la langue scolaire, alors ils vont garder une langue qui va être vernaculaire, la langue du peuple, la langue d'Arras, votre auteur le disait. Donc, une langue québécoise qui est très peu châtrée. S'ils pensent que les filles sont très disciplinées et qu'ils aiment la lecture, ben, ils vont dire qu'ils n'aiment pas la lecture. Et c'est vraiment parce qu'ils pensent que les filles adorent l'école, ils sont dociles, que ces jeunes garçons n'aimeront pas l'école. Puis, je vais finir là-dessus. Troisièmement, mon troisième catégorie, c'est vraiment un virilisme. C'est là qu'on est dans le virilisme et dans l'hyper-virilité. C'est une aversion à l'égard du féminin. Donc, on n'est pas juste dans l'opposition. Ce qu'elle aime, je ne l'aime pas. Mais c'est qu'ils n'aiment pas, vraiment pas, ce qui est féminin. Et ça va jusqu'à des conduites, je dirais, d'agression, d'incivilité et de violence à l'égard de tout ce qui, pour eux, représente le féminin. Voilà. Je m'arrête là-dessus parce que.